c'est Info Club Sandwich. Salut tout le monde, nous sommes le mardi 12 mai 2026. Vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative préférée sur le 87.7 FM, sur radiocampusamiens.fr, sur le DAB+. Et aujourd'hui, on écoute l'interview de Margot sur un thème musical. Ensuite, on écoutera une chronique de Mouna en deuxième partie d'émission. Mais on commence d'abord avec l'interview de Margot.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant mon départ, j'ai réalisé un dernier reportage au Musée de Picardie. Un très beau sujet autour d'un très bel instrument, le clavecin Rockers 1612. Après des siècles de vie nomade, il arrive enfin au Musée de Picardie cette année. En son honneur, un album a été réalisé par Hélène Dio, avec notamment l'association Somme Toute Baroque. Je vous laisse découvrir son histoire, ses propriétés, ainsi que des extraits de l'album.
Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, alors moi je suis François Séguin, je suis conservateur au Musée d'Amiens, en charge notamment des objets d'art, et donc en particulier du clavecin.
Bonjour, je suis Hélène Dio, je suis claveciniste et professeur de clavecin au Conservatoire d'Amiens.
Alors qu'est-ce que cet instrument, le clavecin ?
Alors, le clavecin, c'est un instrument assez rare aux yeux du public. C'est un instrument qui souvent est confondu avec le piano, qu'on considère comme l'ancêtre du piano. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, parce que le clavecin est un instrument à cordes pincées, c'est-à-dire qu'on a un système avec un sautereau en bois qui se lève quand on appuie sur une touche, et sur ce sautereau, il y a un bec qui vient pincer la corde. Donc, en fait, on est dans une mécanique qui évoque plus la harpe ou la guitare, sauf qu'au lieu de le faire manuellement, eh bien on a le relais de la touche. Et le piano, lui, par contre, est un instrument à cordes frappées avec un marteau. On peut donc dire plutôt que ce sont des cousins, plutôt que l'un est l'ancêtre de l'autre.
Et donc, quel type de son il produit, le clavecin ?
Alors, c'est une sonorité donc pincée, assez cristalline, qui en fait est différente selon qu'on joue sur l'un ou l'autre des deux claviers. Un clavecin peut avoir un, deux, voire trois claviers. Souvent, il en a deux dans les versions de concert, c'est-à-dire les grands instruments. Et donc, sur le clavier inférieur, il a un son un petit peu plus ample, un peu plus profond. Et sur le clavier supérieur, un son un tout petit peu plus nasal. On a aussi souvent un jeu qui s'appelle le jeu de luth, où là, des petits étouffoirs viennent se coller contre les cordes et produisent un son qui rappelle encore plus les autres instruments à cordes pincées, notamment le luth, qui est donc l'ancêtre de la guitare. On a aussi un jeu de 4 pieds, donc ça c'est en référence aux longueurs des tuyaux d'orgue, on dit 8 pieds pour le son, on va dire normal, et 4 pieds pour un son qui sonne 8 notes plus haut, donc beaucoup plus aigu, qu'on peut rajouter avec les autres et qui donne un son beaucoup plus brillant à l'ensemble.
On va pouvoir écouter tout de suite un peu ce que ça donne. Alors, d'où nous vient-il ? Quelles sont ses origines ?
Alors, en fait, le principe remonte à très longtemps, c'est-à-dire l'idée que sur une table en bois, si on tend une corde et qu'on la pince, avec la résonance, on peut obtenir du son. Ça a donné les instruments, par exemple, orientaux. Et puis donc il y a eu l'idée de construire un clavier et de faire en sorte qu'on ait un certain nombre de notes qui puissent être jouées. Voilà, ça c'est l'origine. Et après, ben, les clavecins se sont développés de petits modèles qui étaient au Moyen-Âge déjà, on a pu avoir des instruments, jusqu'à des grands modèles, comme je disais, à 2-3 claviers avec un certain nombre de jeux.
Et où est-ce qu'on jouait le clavecin dans le monde, donc ?
Alors, on l'a joué à peu près partout en fait, parce que évidemment au début c'était plutôt l'Europe où le clavecin s'est développé, mais ensuite par exemple il a été amené en Amérique latine par les évangélisateurs qui sont venus avec leurs instruments. Ensuite il est passé plus en Amérique, il est passé dans différents pays, et actuellement le clavecin est joué à peu près partout, y compris dans les pays asiatiques qui commencent aussi à s'intéresser à ce répertoire.
Et donc, si on est ici aujourd'hui pour ce reportage, c'est pour parler du clavecin Rückers 1612, construit, si je peux dire ça comme ça, par Johannes Rückers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc sur son histoire ? Il date de 1612. Qui était Johannes Rückers ? D'où vient le clavecin qui fait son grand retour à Amiens ?
Alors, je vais parler peut-être un petit peu des Rückers. Ouais. C'était une famille, en fait, assez célèbre pour la facture du clavecin. On parle d'un facteur pour un clavecin, c'est celui qui fait. Donc, il y avait Hans Rückers, par exemple, Johannes Rückers. Et puis après, par des mariages, il y a eu aussi les couchers derrière. Et donc, c'était des gens qui étaient établis à Anvers, qui avaient leurs ateliers là-bas et qui ont une production de clavecins qui était très impressionnante pour l'époque. On avait plusieurs centaines de clavecins qui sortaient de leurs ateliers et qui étaient demandés dans toute l'Europe. On venait les chercher, alors qu'à l'époque, ça coûtait extrêmement cher de faire les voyages, mais on venait les exporter dans toute l'Europe.
Alors effectivement, on connaît l'origine première de ce clavecin, parce que c'est écrit tout simplement dessus. Hein. On a deux mentions, une qui nous donne la date de 1612 et une qui nous donne le nom du facteur en latin, qui nous dit, voilà, Johannes Rückers a fait ce clavecin à Anvers. Ensuite, on a un gigantesque trou, un blanc historique, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, où là on le trouve dans un catalogue de vente à Paris, la vente d'une dame qui était une sorte de courtisane, enfin de demi-mondaine du Second Empire, qui était meublée dans un bel appartement à côté du parc Monceau à Paris, avec des meubles extraordinaires des 17e et 18e siècles. Et parmi tout ça, le clavecin qu'on reconnaît bien dans la description, parce que voilà, on a cette mention. On a la description des scènes aussi qui ornent le clavecin. Donc on est sûr que c'est le bon. Mais en revanche, on ne sait ni d'où elle avait pu acquérir le clavecin, ni surtout qui l'a acheté après cette vente. Donc on a ce petit éclairage pour le 19e siècle. Et après, il faut attendre plus tard. Il faut attendre en fait la première moitié du 20e pour le voir apparaître et cette fois-ci le suivre pour de bon dans la famille de Berny. La famille de Berny, c'est une famille picarde qui était notamment installée dans l'hôtel du même nom, l'hôtel de Berny, rue Victor Hugo à Amiens, et qui avait des collections d'objets, dont ce clavecin. Il a été dans cette famille jusqu'à la mort de Gérard de Berny, le dernier représentant de la famille, qui lui a légué son hôtel particulier à la ville d'Amiens et qui a permis que la ville achète une partie de ses collections d'objets, dont ce clavecin. Et donc ça a été chose faite en 1961. Et depuis cette date-là, le clavecin appartient à la ville d'Amiens. Dorénavant, collection publique pour toujours.
Oui, donc parce que le clavecin a été fabriqué à Anvers, mais n'a pas été fabriqué pour la ville d'Amiens initialement.
Non, pas du tout. En fait, alors à l'origine, on n'a aucune idée, on n'a aucune archive, donc on peut pas du tout déterminer. En revanche, on a des éléments qui permettent quand même de retracer à très grande ligne son histoire ancienne. Le premier, c'est le décor du clavecin, parce qu'on voit qu'il y a au moins trois étapes de décor. Il y a une étape d'origine, notamment autour des claviers, notamment la table d'harmonie qui est la table sous les cordes, qui eux sont vraiment le décor d'origine. Il y a une seconde phase avec l'intérieur du couvercle qui lui est peint de scène, qu'on peut dater approximativement par leur style des années 1680-1690. On ne sait pas qui les a peintes. D'un point de vue du style, c'est probablement un peintre flamand, donc il devait être encore dans l'actuelle Belgique à cette époque-là. Et en revanche, on a retrouvé, lors d'une étude du clavecin, une date, 1733, inscrite à deux endroits du clavecin, et qui correspondent très certainement à une première restauration, entre guillemets, disons plutôt un premier aménagement, une modification de l'instrument. Et selon des critères techniques, on peut déterminer que c'est une restauration, enfin une modification française. Donc il a dû arriver en France quelque part au début du XVIIIe siècle, être mis au goût du jour d'un point de vue technique en 1733. Et l'extérieur du clavecin, le piétement, donc le pied sur lequel est posé l'instrument, et l'extérieur de la caisse sont eux aussi couverts d'un décor qui n'est pas du tout le décor d'origine, mais plutôt un décor dans le goût de ces années, justement, premier tiers du XVIIIe siècle, et donc vraisemblablement contemporain de la modification de 1733. Il est flamand, il arrive en France, on ne sait pas trop quand, mais au plus tard, au début du XVIIIe siècle, et depuis il est en France, alors à Paris ou ailleurs, mais voilà, on le repère à Paris au XIXe, puis à Amiens au XXe.
Donc il s'est vachement promené, clavecin, pendant des siècles, c'est assez impressionnant, et donc il avait été envoyé dernièrement à Paris pour restauration, et il y était resté coincé un peu, si j'ai bien compris.
Oui, on peut dire ça. Alors effectivement, en fait, c'est un instrument qui était joué de temps en temps à partir de son entrée au musée dans les musées d'Amiens. Et on a organisé un concert en 1988 au musée qui a révélé qu'il était dans un état un peu problématique et qu'il était nécessaire de le restaurer pour le préserver tout simplement. Et donc on a décidé d'entamer une restauration approfondie, une restauration fondamentale comme on dit. Elle a eu lieu à Paris, faite par Émile Jobin qui est un restaurateur et facteur de clavecin important. Et on a entouré cette restauration de tout un comité scientifique pour faire les choses le mieux possible. Donc cette restauration s'est déroulée durant les années 1990 et à l'issue de la restauration, l'instrument n'est pas rentré à Amiens. Alors en fait, notamment parce que l'hôtel de Berny dans lequel l'instrument était présenté jusque-là a lui-même connu des travaux et des travaux qui ont conduit à sa fermeture au public en 2006 et depuis lors il n'a pas rouvert. Donc l'instrument est resté en fait en dépôt au musée de la musique à Paris, faute de pouvoir être exposé à Amiens.
Et donc, comment peut-il se retrouver désormais au musée de Picardie ?
Ah bah alors déjà, en fait, les musées d'Amiens forment un seul ensemble. L'objet est inscrit sur les inventaires du musée. Et surtout, maintenant, on a fait donc des grands travaux importants au musée de Picardie dans les années 2000, toute fin 2010, pour ouvrir en 2020. Et depuis lors, on a aussi raccroché une partie des salles, ce qui permet de proposer une place cohérente à cet instrument et de le rendre à nouveau visible et audible aussi, mais alors visible surtout dans un premier temps, du public qui viendra au musée de Picardie. Et donc voilà, il sera présenté d'ici quelques mois au musée de Picardie.
Et donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel il va se trouver, de la salle dans laquelle il sera exposé ?
Oui, alors en fait, il se posait au premier étage du musée, étage qui est essentiellement consacré aux peintures, avec un parcours chronologique qui va du 15e au 21e siècle. Et assez logiquement, on l'installera dans une partie dédiée au 17e siècle, parce que c'est donc le siècle qu'il a vu naître. Et on le mettra plus précisément au centre d'un accrochage qui regroupe les tableaux flamands et hollandais, donc évidemment des peintures qui viennent du même foyer, enfin des mêmes foyers de création. Alors pas des mêmes artistes, mais disons de peintres comparables à ceux qui ont peint le clavecin, parce que même quand on ne l'entend pas, c'est un objet d'art et un objet artistique par son décor et sa facture. Là, voilà. Par ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un endroit dans le musée où on est donc au milieu de peintures du XVIIe, des écoles du Nord, mais on aperçoit un ensemble très important qui vient du château de Versailles et qui, lui, date des années justement 1730 et d'une esthétique tout à fait comparable au décor extérieur du clavecin. Donc on aura en quelque sorte cet objet qui fera le lien entre peinture flamande et goût pour l'art flamand encore au XVIIIe siècle et le goût français du XVIIIe. Donc il sera parfaitement à sa place en réalité au milieu de tout ça.
Qui a été à l'initiative de son retour après les travaux, etc. Qui s'est dit il faut qu'on récupère le clavecin, qu'il revienne à nous à Amiens ?
Alors ça c'est en concertation entre moi, mon directeur, on en a discuté, on s'est dit que c'était le bon moment pour faire revenir le clavecin. En fait ça fait très longtemps qu'on a envie de le faire revenir, mais pour diverses raisons ça n'a jamais été le bon moment. Donc c'est pas un manque d'envie de le voir à Amiens bien sûr, mais c'était plutôt un manque de possibilités concrètes pour diverses raisons, hein, raison de lui trouver la bonne place, raison de l'état du musée de Picardie, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu d'énormes travaux, donc avant ça c'était exclu. Raison aussi de climat, parce que c'est un instrument fragile, et donc il faut lui assurer des bonnes conditions d'exposition, notamment de climat, c'est-à-dire de température et d'hygrométrie, donc de taux d'humidité dans l'air. Donc ces conditions sont réunies maintenant voilà, on a donc décidé d'entamer, c'est un processus un peu long, mais d'entamer son retour pour pouvoir le montrer comme l'un des joyaux de nos collections, ce qu'il est.
Et donc c'est à ce moment-là également que vous avez pris contact avec Hélène, j'imagine, que vous êtes retrouvés sur ce clavecin.
Voilà, ça s'est fait par le biais aussi de l'association des amis du musée d'Amiens, mais enfin oui, effectivement, on en est venu à se rencontrer d'abord et puis à discuter d'un éventuel projet autour de ce clavecin extraordinaire pour l'enregistrer à défaut de pouvoir le voir dans un premier temps, et une fois qu'il sera visible, pour pouvoir l'entendre en même temps que le voir, évidemment en diffusant l'enregistrement qui est maintenant disponible.
Et d'ailleurs, on va parler du coup tout de suite de cet album. Hélène, c'était une idée un peu hors du commun qui vous est venue de cet instrument, de son retour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui vous a inspiré ?
Alors effectivement, c'est la date 1612 déjà qui m'a inspirée, parce que c'est une date qui finalement au fur et à mesure de mes recherches est apparue pour plusieurs pièces, notamment celle d'un compositeur qui est vraiment contemporain et proche géographiquement de ce clavecin, Rückers. C'est le compositeur Jan Peterson Svelink. Voilà, compositeur néerlandais. Et il y a une pièce qui est dans un recueil très important de musique pour Virginald, donc plutôt musique anglaise, mais qui comporte aussi des pièces étrangères, qui s'appelle le Fitzwilliam Virginal Book. Et donc dans ce volume, on trouve à un moment une fantaisie Utre mi fa sol la de Svelink, avec à la fin la mention 1612. Alors je me suis dit, ah, là c'est vraiment un signe du destin.
De
et ou puis pas, après, et en plus c'est une magnifique fantaisie, donc c'était un plaisir de l'enregistrer. Et puis à partir de là, bon, Svelink c'était un compositeur que je connaissais notamment grâce à sa fantaisie chromatique, qui est un monument de la musique, qui a inspiré la fantaisie chromatique de Bach quelques années plus tard. Et donc j'ai eu envie de construire le programme principalement autour de ce compositeur, mais comme justement il y avait un lien avec les virginalistes anglais, donc les musiciens qui jouaient sur Virginal, sur épinette et sur clavecin au XVIe et XVIIe siècle, eh bien j'ai rajouté deux compositeurs anglais, William Byrd et Orlando Gibbons. Donc voilà comment s'est construit ce trio de compositeurs. Et puis après, c'était l'idée aussi d'explorer un peu toutes les possibilités de sonorité du clavecin Rückers, parce que en fait c'est un instrument qui, comme la plupart des Rückers de cette époque-là, a deux claviers extrêmement distincts en sonorité, presque comme deux clavecins en un. Et donc pour chaque pièce, je pouvais m'amuser à soit jouer sur le clavier inférieur avec un seul jeu, ou le clavier supérieur avec un seul jeu. Par exemple, vous pouvez comparer dans le disque la Pavane lacrymée de Svelink, qui est donc sur le clavier inférieur avec le jeu de 8 pieds dont je parlais tout à l'heure. Et puis la Pavane lacrymée de Byrd, les deux ayant écrit leur propre variation sur une pièce assez connue de Dowland, la Pavane lacrymée. Cette deuxième pièce donc de Byrd a été jouée cette fois-ci sur le clavier supérieur, et on entend bien la différence vraiment de son. Thank you. Je me suis amusée aussi à utiliser le 4 pieds, donc ce jeu plus aigu dont je parlais tout à l'heure, qui est très cristallin et très léger, pour une pièce qui s'appelle la nymphe fugitive. Et de temps en temps, j'ai aussi combiné des jeux pour avoir des sonorités puissantes, plus brillantes, comme par exemple dans la fameuse fantaisie chromatique de Sweelinck.
Et on a beaucoup parlé du son qu'émet le clavecin, mais qu'est-ce qu'elle vous évoque un peu plus personnellement ? C'est vrai que moi, quand je l'entends, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression un peu de me retrouver dans un vieux manoir. C'est assez particulier, comme dans un film baroque. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cet instrument ?
Alors, c'est un instrument dont je suis tombée amoureuse quand j'étais toute petite. À l'âge de 6 ans, j'ai eu une présentation d'instrument où j'ai pu voir le clavecin. Ça a été un vrai coup de cœur. J'ai vraiment embêté mes parents pendant 6 mois pour avoir l'occasion de commencer avant même mes 7 ans. Pour moi, c'est un son de corde pincée, comme je disais tout à l'heure, on peut aimer la harpe, la guitare. Moi, j'ai aimé le clavecin. Et pour moi, il n'y avait aucune différence entre les trois, aucune connotation pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est aussi un instrument qui est capable de chanter, qui a une grande résonance, qui est émouvant, qui n'est pas capable d'autant de nuances que d'autres instruments, parce qu'en fait, comme c'est un son pincé, le son est assez fixe. Mais en même temps, par tout un système d'articulation, de gestion du temps, etc., on peut créer des mini-détails. Donc il y a une certaine subtilité. Et ça, c'est ce qui me plaisait aussi, que tout ne soit pas acquis. On peut faire pianissimo, on peut faire fortissimo. Non, pas du tout. En fait, on reste dans une nuance qui est assez, assez médium. Et en même temps, on peut créer un art du discours avec beaucoup de moyens subtils.
Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut retrouver cet album et l'écouter ?
Alors, cet album est en vente à la boutique du musée de Picardie. Elle est en vente aussi sur différentes plateformes, la Fnac, les grandes plateformes type Amazon, etc. On peut se le procurer aussi par le biais de l'association Somme Toute Baroque, qui a été créée justement pour pouvoir soutenir le projet d'enregistrement.
Est-ce que vous pouvez nous parler donc de cette association Somme Toute Baroque ?
Alors, l'association Somme Toute Baroque, en fait, c'est une association dont j'avais un peu le projet il y a longtemps, parce que je, en tant que professeure au Conservatoire d'Amiens de clavecin et coordinatrice du département de musique ancienne, j'ai toujours eu envie de trouver des moyens de développer la musique baroque et la musique ancienne plus largement dans la région. Et il se trouve que ce projet d'enregistrement en fait a été le déclencheur, parce que pour soutenir la recherche de fonds, parce qu'un faire un disque c'est entre 10 000 et 15 000 euros à trouver, eh bien il fallait une structure. Et donc c'est comme ça que s'est créée cette association Somme Toute Baroque, qui a réussi donc à porter, avec l'aide aussi de subventions d'Amiens Métropole, de mécénat, etc., qui a réussi à trouver les fonds pour soutenir cet enregistrement et qui maintenant va continuer à essayer de faire découvrir la musique baroque par différentes activités de conférences, de concerts dans la région.
Et donc, où est-ce qu'on peut suivre les activités de l'association ?
Alors, l'association a un site qui est donc sur Yapla. Et si on tape une petite recherche association Somme Toute Baroque, on trouve un site internet où on recense toutes les activités. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut trouver un annuaire, par exemple, des lieux d'enseignement ou une liste des concerts de musique baroque dans la région.
En parlant d'enseignement, pour peut-être nos auditeurices curieux qui aimeraient apprendre à jouer du clavecin, comment est-ce qu'on peut se tourner vers vous pour le découvrir ?
Alors, il suffit de se rendre au conservatoire et au deuxième étage, il y a Maxime Renard qui est chargé de tout ce qui est études et qui est donc peut absolument renseigner toutes les familles qui voudraient, au sens large, découvrir des instruments au conservatoire et plus spécifiquement le clavecin. Et donc, j'ai régulièrement des demandes pour pouvoir faire un cours d'initiation, une découverte. Et puis, je m'occupe aussi du parcours découverte au conservatoire qui s'adresse aux enfants de 5-6 ans où, pendant toute une année, ils ont l'occasion de découvrir tous les instruments du conservatoire par petits groupes. Et donc, chaque semaine, j'ai un groupe de 2-3 enfants qui viennent dans la salle découvrir le clavecin.
Qu'est-ce qui est prévu avec l'arrivée du clavecin ?
À l'avenir, on aimerait pouvoir faire un peu comme fait notamment le musée de Colmar, c'est-à-dire se bénéficier de ce privilège d'avoir un clavecin ancien, mais un clavecin aussi en état de jeu, donc qu'on peut faire entendre par le biais de récital, bien sûr. Donc il est probable qu'on se lance dans une saison, avec une régularité de petits concerts, enfin petits ou pas petits d'ailleurs, mais de concerts au sein des salles du musée pour faire entendre cet instrument qui le mérite amplement et puis voilà, qui est quand même relativement rare à tout point de vue, parce que dans les collections publiques françaises, il y a peu d'instruments qui sont jouables et joués. Donc c'est une vraie chance qu'on a à Amiens de pouvoir avoir ce privilège de l'entendre.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Et puis, on a hâte de retrouver le clavecin Rekkers 1612 au musée de Picardie.
Merci beaucoup.
Merci.
Toujours sur Radio Campus Amiens et on vient d'écouter Helplessly de Tatiana Manawa. C'est la deuxième partie de l'émission et tout de suite on écoute la chronique de Mouna sur les Amazighs.
Est-ce que vous avez déjà entendu le mot berbère ? On utilise souvent ce mot pour qualifier le peuple minoritaire, les Amazighs, qui vit au Maghreb sans connaître son étymologie. Berbère en réalité est un terme très péjoratif. Le mot berbère vient du grec barbaros et du latin barbarus, qui va donner la signification à barbare bien plus tard. Le terme a d'abord été récupéré par les Arabes du Moyen-Orient pour qualifier les Amazighs de barbares. Ensuite, à l'époque de la colonisation, les Français se sont réappropriés le mot pour nommer les Amazighs, C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a été amené à appeler les Amazirs berbères. Alors, qui sont les Amazirs ? C'est une question que je me suis posée durant toute mon enfance et mon adolescence, moi-même faisant partie de ce peuple. J'avais extrêmement honte de mon héritage et j'ai compris bien plus tard qu'il est en fait très précieux. À l'école, quand je parlais de mes origines, on me qualifiait de berbère. J'ai assimilé ce terme et j'ai commencé à toujours l'utiliser pour me définir sans savoir ce que ça voulait dire. Un jour, j'ai décidé de faire mes recherches et j'ai compris que je me trompais sur mon identité et que je ne connaissais rien de ma propre culture. On a tellement intériorisé ce terme que c'est devenu normal au sein de la communauté de l'utiliser, alors qu'en réalité, ça ne devrait pas l'être. J'ai compris que je connaissais très peu ma propre culture et surtout que beaucoup de choses sur les Amazirs avaient été oubliées, effacées ou simplifiées avec le temps. Alors, je repose la question. Qui sont les Amazirs ? Les Amazirs, c'est un groupe ethnique autochtone. Ils sont présents sur toute l'Afrique avec une forte présence au Maghreb. Au Maroc, par exemple, ils représentent environ 40 à 45% de la population totale. L'histoire amazigh remonte à l'Antiquité. Les Amazirs étaient déjà présents bien avant les conquêtes arabes et la colonisation européenne. Les Égyptiens anciens parlaient déjà de peuples amazigh sous différents noms, comme les Libous. Les Amazirs ont fondé de grands royaumes en Afrique du Nord, comme la Numidie, dirigée par le roi Massinissa, considéré comme l'un des premiers grands rois amazigh de l'histoire. Et la culture amazigh existe encore aujourd'hui, à travers la musique, les traditions, les tatouages, les bijoux, mais aussi la langue amazigh qui possède son propre alphabet, le Tifina. C'est l'un des alphabets les plus anciens d'Afrique du Nord. Certaines traces remontent à l'Antiquité, plusieurs siècles avant notre ère. Cet alphabet a traversé les siècles malgré les invasions, la colonisation et les tentatives d'effacement culturel. Aujourd'hui encore, on peut voir le Tifina sur des panneaux au Maroc. Pendant longtemps, je pensais que cette culture ne me concernait pas vraiment. Mais plus je faisais mes recherches, plus je comprenais qu'on m'avait transmis une histoire immense, sans vraiment me l'expliquer. Et finalement, apprendre l'histoire amazigh, ce n'était pas seulement apprendre d'où je venais, c'est aussi comprendre pourquoi il est important de préserver une langue, une mémoire et une identité surtout. Donc non, les Amazirs ne sont pas des barbares et ne l'ont jamais été. C'est un peuple avec une histoire immense, riche de plusieurs milliers d'années. Et en plus, le mot amazigh, ça veut dire peuple libre ou homme libre. C'est une définition bien différente, mais plus belle et plus symbolique que berbère.
Et voilà, c'est déjà la fin de votre Info Club Sandwich. On se quitte en musique avec Canuck Chase de Lebi Siffre. Merci de nous avoir écoutés et à demain sur Radio Campus Amiens. Sitting in the back seat of my car. With my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing a song just for me, just for me. Oh, I know I'll be down again with my
That's what it's all about.